Donc, oui, à Dichat, ça nous plaisait de recevoir Fanch Rebourg, qui est une escribane, enseignante, légère, conseiller municipal, passionnée de musique et du travail d'un Lucasau. On est en Bretagne, on est à Saint-Loup, en Bretou, et on peut vous dire merci, Fanch, de nous accueillir dans quel village de Lanlou, de Saint-Loup. Alors, est-ce que peut-être pour commencer, nos auditeurs sont pas accoutumés dans le Bretou, mais là, avant de prendre la parole dans la langue, comme maîtresse tout à qui, nous fait une cançonnette en Bretou, une petite chanson.
Ma de gentan tout, deux de ma d'or bazon de loup, à l'onde, velvé la rotine, une raison de velvé la rotine, Alain, à l'onde, nous y, deux de ma d'or en mon bazon de loup, des ma d'art. Mobis ron e vijikan de organawen dar, an dober un an bion tri, hag a zo kentor vidare vion a zo bar skol vamm. Donc une petite comptine pour les enfants de maternelle, si ça vous dit. Une histoire de petit chien, qui compte jusqu'à 10. Un an dao tri, stag in ma de hi, tonton Jean-Marie, wow 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 wow, pe var pem c'hwer, ker zidoar i lec, seis eis nav, diom de roar i tav, dek,
Eh bien, merci. Là, on est en Bretagne, donc vous l'avez compris. Même si vous ne nous avez pas compris ce que disait Fanch, c'était de toute façon des mots d'amitié. Et donc, Fanch, vous êtes dans ce petit village de Lanloup. Alors, est-ce que vous pouvez nous le situer, nous présenter un peu ce village?
Alors, Lanloup est une petite commune rurale côtière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vis-à-vis maritime immédiat. On a deux petites communes. Deux communes alentour de Lanloup qui sont les communes côtières, Plouézec et Ploua. Donc Lanloup se trouve entre Ploua et Plouézec, sur la route, on va dire, de Saint-Brieuc à Paimpol, donc sur la côte nord de la Bretagne, nord des côtes d'Armor, autrefois les côtes du Nord, qu'on appelle le Gouélo. Le pays historique de Bretagne s'appelait autrefois ici le Gouélo, qu'on rattache assez souvent, de manière un peu erronée, au Trégor, qui est un pays un peu plus connu. Mais ici, nous sommes les Gouélards, nous ne sommes pas les Trégorois, nous sommes du Gouélo.
Et donc, pour les gens qui habitent loin, on parle de Paimpol, c'est à côté de Paimpol.
C'est ça, c'est 12 km de Paimpol, Paimpol, voilà, qui est le centre de vie, on va dire le centre du bassin de vie ici, même si au fur et à mesure du grand millefeuille de l'administration française, les choses se séparent, se rejoignent. On était autrefois dans le canton de Ploua, qui était un canton de 5 communes simplement, et aujourd'hui on a rejoint le canton de Paimpol, une communauté de communes qui nous éloigne un peu de la côte. Les auditeurs doivent connaître la ville de Guingamp, ne serait-ce que pour son équipe de foot. Donc voilà, on est aussi à 25 km de Guingamp.
Alors quand on parle de Bretagne, on me dit toujours on est de l'Argoate ou de l'Armor. Alors Argoate, ça veut dire la terre, le pays de la terre, et l'Armor du littoral. Alors Lanloup, c'est plutôt Argoate ou Armor?
Alors c'est Armour, hein, et c'est vraiment Armour, ça voudrait dire le cochon, donc on va pas faire dire ça, on va dire Armour plutôt, on va bien faire l'accent. C'est le pays de la mer évidemment chez nous, et l'Argoate, donc c'est le pays des bois. Alors même si on est aujourd'hui rattaché à une communauté de communes qui est un petit peu plus tirée vers les terres, chez nous c'est la mer, et c'est la mer vraiment à 100%. On a ici une longue tradition familiale d'anciens marins de commerce, d'anciens pêcheurs, etc.
Et donc la population de ce village aujourd'hui?
On est 260 au dernier recensement, donc c'est pas grand-chose, et nous sommes donc 11 conseillers municipaux au conseil, une toute petite commune.
Alors quand on est conseiller municipal, puisqu'on vient d'en parler, dans une petite commune, le travail consiste à quoi exactement? Est-ce qu'il y a un côté culturel, ou c'est plutôt de régler des problèmes matériels?
C'est les deux, évidemment. Il ne reste plus aux communes telles que la nôtre, de la dimension de Lanloup, qui n'ont plus d'école, par exemple, d'école publique. Il ne reste plus ces problématiques qui sont encore des problématiques assez importantes. Dès qu'on a une école dans sa commune, ça donne souvent du fil à retordre, d'ailleurs. Et ça donne aussi beaucoup de travail et beaucoup de nécessité d'emploi de personnel communaux et de choses comme ça. Dans une commune de la taille de Lanloup, on peut même déjà s'interroger de la nécessité aujourd'hui justement de conserver des communes de cette taille-là. Nous, on essaye de se bagarrer pour conserver l'identité communale. Il y a des gens qui sont contre, qui pensent que l'esprit de clocher, c'est l'esprit du XXe siècle. On essaye, nous, de préserver des choses qui ont été importantes sur Lanloup et on essaiera de les faire tenir jusqu'au moment où on ne pourra plus. Aujourd'hui, au conseil municipal, il n'y a qu'un maire et trois adjoints, simplement. Donc, vous voyez, alors moi, j'ai été longtemps. Ça fait 27 ans que je suis conseiller municipal à Lanloup. J'entame là depuis l'an dernier mon cinquième mandat. J'ai été longtemps conseiller municipal au début de mandat, puis ensuite j'ai été 10 ans adjoint à la culture et à l'environnement. On a des problématiques environnementales qui sont de la taille de notre commune, mais qui sont tout de même des problématiques assez importantes, puisqu'il nous reste sur la commune à gérer. On a par exemple on a des agriculteurs encore sur la commune. On a une problématique aussi en tant que commune très côtière, on va dire, de gestion un petit peu des flux de population saisonnières qui font que sur la commune on a un gros problème actuellement concernant l'immobilier. Les jeunes chez nous sur le bord de la côte n'arrivent plus à se loger. On peut naître, vouloir vivre et travailler au pays et ne plus pouvoir s'y loger, être obligé de faire beaucoup de kilomètres vers les terres parce que les communes rurales aujourd'hui sont envahies par des résidences secondaires, des gens qui vivent un mois à peine dans l'année dans leur résidence. On pourra peut-être parler de ça tout à l'heure si ça vous dit qu'on fasse un peu de politique, je ne sais pas. Voilà, donc on gère ce genre de choses dans une commune et on gère aussi bien sûr des choses telles que l'état civil, les liens avec la communauté de communes et avec donc tous les grands thèmes ensuite de la communauté de communes, quoi.
Et on est toujours à Lanloup et maintenant on va écouter un morceau de musique bretonne que Fanch vient de choisir. Toujours avec Fanch donc qui est bien implanté dans son pays et qui est en train de regretter l'évolution économique de cette région parce que beaucoup de jeunes, vous disiez, Fanch, ont des problèmes pour vivre au village, vivre au pays, comme on dit nous.
Bevan Bargumun en breton. Oui, alors je vais pas aborder ce sujet sur le thème du regret totalement parce qu'il faut reconnaître qu'évidemment dans une Bretagne côtière où l'agroalimentaire est de moins en moins présent, où la pêche a ses difficultés, où le commerce ne fonctionne que quelques mois de l'année, on a justement besoin d'avoir une économie aussi touristique, c'est évident, mais cette économie touristique, dans la mesure où elle est très rarement étendue sur une saison qui va à plus de 2 mois ou 3 mois, on va dire qu'on a un peu de camping-car en juin et aussi en septembre, mais en 2 mois, disons, on réussit à avoir le plein emploi chez nous. Et au bout d'un moment, les choses se tassent et il y a cette impossibilité de créer de la richesse en dehors des saisons touristiques et en dehors du modèle touristique Parce que la problématique du logement est la première question, le premier problème qui se pose. Il y a une pression foncière qui est telle aujourd'hui sur les terres qu'on ne peut plus partager les terres qu'en terres agricoles, et il faut bien que les agriculteurs continuent à avoir des terres, ou terres résidentielles, qui sont des terres plutôt de réhabilitation du logement ancien. Et actuellement, le logement ancien, quand il est réhabilité, il est la plupart du temps, mais on en est dans des pourcentages incroyables, hein, 85-90% aujourd'hui des maisons qui sont réhabilitées pour faire soit du gîte, du tourisme, ou alors de la location en saison, c'est-à-dire à la semaine, voire à la journée, à la nuit, etc. Des jeunes qui aujourd'hui veulent s'implanter pour créer leur entreprise d'artisanat, travailler dans le commerce ou travailler dans les grandes entreprises agroalimentaires du secteur, c'est-à-dire les huîtres, le maraîchage, les serres, des choses comme ça, sont obligés de faire de la route pour rentrer chez eux le soir parce qu'ils ne peuvent plus habiter au village. Donc on a dans le parti politique auquel j'adhère depuis le moment où je suis élu, c'est-à-dire depuis 27 ans aussi, qui s'appelle l'UDB, l'Union démocratique bretonne. On travaille d'ailleurs en accord avec un certain nombre d'autres partis politiques de l'Hexagone, en particulier des partis politiques d'Occitanie, du Pays Basque, et bien sûr aussi de Corse, d'Alsace, sur cette idée qu'on doit défendre, notre fédération de partis politiques, ça s'appelle Région et Peuple Solidaire, à l'échelle hexagonale, qu'on doit défendre, essayer de défendre au maximum un statut de résident. Et chez nous, à l'UDB, on essaye de proposer, on a 4 nouveaux élus UDB au Conseil Régional de Bretagne, on essaye de proposer, on sait bien que ça sera difficile, de proposer cette idée d'un statut des résidents qui poserait un peu un an d'habitation à plein temps sur le secteur pour pouvoir devenir résident à part entière et acheter la maison. Voilà.
Et alors les communes, par rapport à cette nouvelle problématique d'installer les gens d'ici, ici même, est-ce que les communes développent des lotissements, par exemple ?
Oui, alors on fait des lotissements. Là, on a quand on refait, en fait, quand on recrée les PLU. Actuellement, les PLU sont en train d'être abandonnés totalement par les communes et les POS, qu'on appelait autrefois les POS, les plans d'occupation des sols, au profit des communautés de communes, donc d'une échelle beaucoup plus grande, et d'un ce qu'on appelle un SCOT, les schémas d'organisation territoriale. Les communes ont de moins en moins la main mise sur leur foncier, mais elles ont encore parfois des terrains à elles, qu'elles peuvent donc convertir en logement en travaillant avec des organismes qui font à parité, on va dire, du logement social et du logement d'accession à la propriété. Et dans ces logements-là, on arrive à sur des surfaces, alors qui ne sont plus du tout les mêmes qu'autrefois, hein, des surfaces à 400 mètres carrés, et encore, ça peut être un grand maximum dans les lotissements, arriver à imposer que ce soit des gens qui soient plutôt sur le format logement social avec des enfants, pour pouvoir continuer aussi à accueillir des enfants dans les communes rurales alentour, dans la petite commune dans laquelle j'enseigne notamment. Il faut du bâti parce que tous les 7-8 ans, les enfants qui étaient à l'école communale arrivent au collège, puis plus tard au lycée. Et s'il n'y a plus de nouveaux logements, l'école se dépeuple. Voilà.
On a compris que c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui en Bretagne, un peu partout, sur le littoral. Et puis on continue nous toujours en musique dans Radichats avec un second morceau que vous nous proposez, Fanch.
Ar strad, ar breur ar gwas, ar ma bantad, douged ar zam, garroar ar vrek, ar ver, ar vam, baling, balan, baling, balan, baling, balan, mamam, so clan, baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma bro, so clan, Ede ar plar e c'hwevar ifen ur bed en izar Disken-ed e don-don Da zon avoud mat ez gast pe intron Baling-balan, baling-balan Baling-balan, maman so klan Baling-balan, baling-balan Baling-balan, ma bro so klan Edding d'ar brezel Poket ur skud en just ar ok mervel Bed er bed, bed zo bed o stoui o fen Kollegat o en ur gwa trapen oan reseven Baling, balan, baling, balan Baling, balan, maman, so klan
baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma bro, so klan. Edding, dar vor, das is ki geri un istren lare de wain mor. Für in bet, sentus, rostiger wees, kenne son, lonket is lonket, kache du jes. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, mam, so klan. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma bro, so klan. Edding, dar vor, da li padrer an istren lare de wain kor. Changez d'iliat, changez d'ginou, a firu da sougen an triliou. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma mam zo klan. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma bro zo klan. Bugal e brez, zo kousket mons, kapi oan diaolin besanket barfons. Var ar c'hour, laiz ar roud ou zo, met ar evra zo kren din tran al laro, met ar evra zo kren din grik na rano. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, mamam zo klan. Baling, balan, baling, balan, baling, balan, ma bro zo klan. Baling, balan. Baling,
donc, Fanch, vous, cette langue bretonne, cette culture bretonne qui semble vous imprégner, comment l'avez-vous rencontrée? Est-ce héréditaire? On parlait chez vous le breton ou... Enfin, racontez-nous tout ça.
Alors, j'ai rencontré la culture bretonne, je ne peux pas dire que je l'ai fait. Ou alors, c'est une rencontre intra-utérine. Mais la langue bretonne, c'est venu un peu plus tard. En fait, bon, je suis né ici, je suis né à Paimpol, hein, à la maternité de Paimpol. J'y ai habité 3 jours, je crois. Et depuis, j'habite Lanloup. Donc, ça fait, j'ai eu 49 ans avant-hier. Donc, ça fait 49 ans que j'habite la petite commune rurale de Lanloup, rurale côtière de Lanloup. Donc, cette culture bretonne, elle faisait partie de la vie du village. Elle faisait partie de la vie aussi familiale dans certains domaines, pas dans l'intégralité de ces domaines. Si on pouvait diviser une culture en domaines, mais je crois que c'est ce que font les associations aujourd'hui de réimprégnation, de réappropriation de la culture. La culture, quand elle est là depuis le début, on se pose peut-être pas la question. Je crois que j'ai dû commencer à me poser la question de la culture bretonne quand je suis arrivé en fac à Rennes. C'est-à-dire que j'avais un peu d'avance à l'école, j'étais en classe unique dans la petite école de Lanloup, et en classe unique, on apprenait à lire à 4 ans, 5 ans, si c'était possible, en fait, donc j'ai fait un peu plus vite. Je suis arrivé en fac dès 16 ans, et à 16 ans, je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que Lanloup me manquait, mais ça, c'était pas étonnant, quand on est loin de maman, à 16 ans, ça fait mal. Et la deuxième chose, c'est, lors des premiers exposés, je faisais Lettres modernes à la fac de Rennes, Villejean. Et donc j'apprenais les littératures du monde et la littérature française en particulier. Et lors de mes premiers exposés, j'ai vu des sourires dans la salle parce que j'avais un accent breton très prononcé, un accent, l'accent de chez moi, dont je ne savais pas que c'était un accent. C'était ma façon de parler, c'est tout. Et donc j'ai eu ensuite des remarques plutôt sympathiques, hein, de mes collègues camarades de banc de la fac. Alors c'était la fac de lettres modernes, il y avait beaucoup d'étudiants dans les premières années, hein. Et puis des profs aussi qui m'ont dit c'est quand même, pendant les exposés on entend l'accent. Et c'était très étonnant parce que je ne parlais pas le breton chez moi. Mes grands-parents parlaient le breton entre eux, pour qu'on ne comprenne pas, d'ailleurs, c'était uniquement pour nous détacher de la conversation qu'ils parlaient le breton. Ils ne l'ont pas enseigné à ma mère, qui était leur fille unique, pour une raison assez simple, c'est que ma grand-mère était d'origine paysanne, Et mon grand-père était un marin de commerce. Et mon grand-père a abandonné sa langue dès qu'il a commencé à embarquer et pour l'anglais, au profit de l'anglais, en fait. Il ne parlait de breton que quand il revenait, c'était sa langue naturelle, hein, mais sur sa langue d'enfance. Il n'a appris le français qu'à partir de 6 ans, d'ailleurs, à l'école. Hein. Et il a porté le symbole autour du cou quand, à l'école de la République, il était pris à parler le breton dans la cour de récréation, comme ses camarades, on lui accrochait un bout de bois. Ils n'étaient pas assez riches sur la côte, ici, du Gouélo, pour que ce soit un sabot. Père Jacques Elias nous raconte ça dans le Morbihan et dans le Finistère Sud, chez Elias. C'était un sabot qu'on accrochait autour du cou. Ici, on ne pouvait pas gaspiller un sabot, je pense. Donc c'était un vieux morceau de bois, une laisse de mer peut-être, qui était accroché au cou de l'enfant qui parlait le breton dans la cour de récré. Et il gardait son symbole jusqu'à la fin de la journée, tant qu'il n'avait pas dénoncé un autre camarade qui parlait lui aussi le breton. Et le dernier, lui, était là pour... devait rester plus tard en punition, charger le poêle à bois, nettoyer la classe, etc. Bon, je reviens sur mon cas personnel. J'ai donc pas suivi le sabot, mais presque l'inverse en fait à la fac. Et je me suis dit, mais mince, c'est vrai, je suis breton. À 16 ans, voilà. Auparavant, j'étais un petit Français de Bretagne, comme les autres, qui avaient cette culture-là, cette musique dans les oreilles. Je ne sais pas à quel moment j'ai appris à danser les danses bretonnes, par exemple. C'est venu à 3-4 ans, sans doute, au moment où on commence à aller sur les parquets de Fessenoz. Je me suis intéressé aux musiques de partout, autant au rock, à AC/DC et d'ailleurs Stravinsky qu'à Alan Stivell. J'avais des vinyles d'Alan Stivell chez moi, et je les ai toujours d'ailleurs, que mon père achetait, comme il achetait aussi Jean Ferrat, vous voyez. Donc cette question-là ne se posait pas, la question de la culture. C'est plutôt une redécouverte, c'est ce que Morvan Lebesgue appelle le choix entre la découverte et l'ignorance. Il y a des Bretons qui ne le sont toujours pas à l'heure de leur mort à 85 ans, et puis des jeunes Bretons qui le découvrent aujourd'hui beaucoup plus, peut-être grâce aux écoles bilingues, grâce à ces choses-là, on en parlera peut-être après. Et donc je me suis mis en fait à la musique bretonne, à la pratique de la musique bretonne, à partir de 18-19 ans, donc au biniou, à la bombarde, à la cornemuse, à la flûte irlandaise. Voilà. Et ensuite, quand j'ai réalisé mon mémoire de maîtrise sur la poésie bretonne contemporaine de langue française, j'ai travaillé sur un poète du Morbihan qui s'appelle Eugène Guivic, un poète très connu, mondialement connu, et pas si connu que ça en Bretagne finalement, malheureusement, enfin de plus en plus maintenant. Je me suis rendu compte qu'en faisant des comparaisons avec des poèmes d'Angela Duval, qui est une grande poétesse, peut-être la grande poétesse de langue bretonne aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont elle est reconnue, du Vieux Marché dans le Trégor. Je me suis rendu compte que j'étais obligé de lire ces textes en langue française, traduite par quelqu'un. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je joue boule bretonne. J'avais des mots, des phrases entières de langue bretonne qui me revenaient grâce à la boule bretonne. Parce que sur les allées de boue, on apprend beaucoup de gros mots et de choses comme ça, vous voyez. Je joue boule bretonne, je fais de la musique, je suis né ici, je sais ce que c'est la culture bretonne complètement, à la fois maritime et rurale d'ailleurs. Mais il me manque la langue. Et j'ai décidé de commencer à apprendre la langue vers 18-19 ans. Voilà.
Une belle aventure, enfin, et on continue la musique toujours dans Adichats.
Thank you.
après cette belle découverte du breton, vous en possédez tous les secrets et vous précipitez, enfin vous vous destinez à devenir enseignant de breton, c'est ça?
Alors pas tout à fait enseignant de breton pour commencer, parce qu'en fait on met un certain nombre d'années à apprendre une langue avant de vraiment être capable de l'enseigner. Vous dites tous les secrets du breton, non, je ne suis pas certain. Je me définis pas comme linguiste du tout pour ce qui est de la langue bretonne. Mais j'en reviens toujours au même questionnement que je me pose à longueur d'existence, c'est que j'essaie plutôt d'être sur le versant populaire tout le temps. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui parlent le breton de naissance, et donc des anciens, la plupart du temps, puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la langue bretonne, c'est 200 000 locuteurs à peu près, au dernier sondage de l'INSEE en 2018. Et sur ces 200 000, il y en a 150 000 qui disent être locuteurs au moins une fois par semaine. Et il y en a donc beaucoup moins qui disent le parler au quotidien. Et parmi ces 150 000-là, on a 90% qui a plus de 70 ans. Donc aujourd'hui, la question, c'est la question de la sauvegarde de la langue bretonne. Et cette question, elle s'est posée... au départ, je l'ai fait pour mon plaisir, pour justement récupérer ce qui me manquait. Peut-être la seule chose qui me manquait à ce moment-là, dans ma jeunesse, à ce moment de la découverte de l'ignorance dont je parlais en référence au livre de Morvan Lebesgue qui s'intitule « Comment peut-on être breton ?» et c'est sur la démocratie française, c'est le sous-titre très important, dans les années 70, je crois. Et ensuite, il y a eu cette très belle chanson de Triane, « La découverte de l'ignorance », qui a popularisé aussi ce titre. Voilà. J'ai continué mes études de lettres modernes, j'étais aussi passionné de littérature de manière générale, et pas seulement littérature bretonne, et donc je me suis mis à enseigner ensuite en école primaire, maternelle et élémentaire, parce qu'il fallait bien que je me mette à travailler. J'avais pas trop les moyens financiers à l'époque, je travaillais comme enseignant pour me payer ma maîtrise déjà, et on n'avait pas trop les moyens financiers que je continue en fait, et donc j'ai décidé de... En fait, je savais aussi que si je faisais prof, il fallait que j'aille faire des stages de CAPES ou d'agrégation, il fallait que j'aille les faire à l'étranger, c'est-à-dire en région parisienne, ou bien éventuellement dans le nord de la France, parce que c'était là qu'il y avait les postes, en fait. La Bretagne n'est pas du tout déficitaire en postes, les gens ont tous envie de travailler en Bretagne, ou dans le sud, par chez vous, sans doute aussi. Et donc, la seule manière pour moi de rester vivre et travailler au pays complètement, c'était, en restant enseignant, c'était d'enseigner en école primaire. Donc j'ai enseigné pendant 5 ans en classe monolingue, et au bout de ces 5 ans, dans un fest-noz, un jour, un de mes collègues et copains, que j'ai perdu l'année dernière d'ailleurs, qui était conseiller pédagogique de langue bretonne, qui s'appelait Jean-Dominique Robin, celui à qui je dois tout sans doute sur la langue bretonne, en tout cas une très grande partie, m'a dit, après quelques bières à la buvette, je crois que c'est le moment où il faut que tu fasses de la langue bretonne ta langue de vie quotidienne et notamment de travail, sinon tu n'iras pas plus loin dans l'apprentissage. Et je l'ai pris au mot, et donc j'ai postulé à l'habilitation en langue bretonne que j'ai obtenue, et ensuite j'ai postulé à un premier poste sur Paimpol d'ailleurs, justement. Je suis revenu vivre sur la côte aussi parce que je travaillais on est assez condamné, les jeunes enseignants, et c'est encore le cas aujourd'hui, à enseigner au sud de la RN12, dans l'Argouat, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'Argouat, vraiment, parce que les postes sur la côte sont chers. Et donc ça m'a permis aussi de revenir chez moi, de revenir habiter chez moi, et donc c'était il y a 20 ans de cela. Et ça fait donc 20 ans que j'enseigne en langue bretonne. Voilà.
Dans cette langue bretonne, dans l'enseignement, elle se développe aujourd'hui, il y a une demande qui augmente?
Oui, alors il y a vraiment une grande demande, et c'est tant mieux. On sait que l'UNESCO déclare aujourd'hui la langue bretonne comme un certain nombre de langues européennes et mondiales d'ailleurs en grand danger. En raison de ce que je vous disais tout à l'heure, les anciens bretonnants de naissance. Et puis aujourd'hui, on a moins de 20 000 enfants qui sont scolarisés en langue bretonne, en Bretagne et un petit peu en région parisienne aussi. Alors je parle de la Bretagne à 5 départements, et évidemment, c'est pas la peine de le préciser, je suppose. La Loire-Atlantique est totalement bretonne. Et donc, ces 20 000 enfants, c'est très peu. Et ces 20 000 enfants dans 3 filières différentes, depuis la maternelle, la toute petite section de maternelle, jusqu'à la faculté en fait. Donc il y a 3 filières, les écoles Diwan, qui sont des écoles associatives laïques, qui utilisent le principe de l'immersion, le meilleur des principes, celui qu'il faut défendre et qu'il faudrait qu'on puisse obtenir aussi dans l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, malheureusement, et vous avez peut-être vu passer des débats. Et donc, je vous dirai mon avis là-dessus après, si vous voulez. Et donc, Diwan pratique ça depuis quasiment une cinquantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, l'enseignement de l'éducation nationale, les responsables se sont rendus compte qu'il y avait une grosse fuite des effectifs vers Diwan. Donc, ils se sont dit, c'est uniquement pour ça qu'ils se sont dit, il va falloir qu'on le fasse nous aussi. Et donc, les classes bilingues d'éducation nationale s'en sont créées à ce moment-là. Voilà, et donc moi je suis depuis 20 ans enseignant dans l'éducation nationale, dans un système à parité horaire simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, parce que, article 2 de la Constitution, la langue française est la langue de la République, on n'a pas le droit de pratiquer plus de breton que de français. À vrai dire, puisque c'est pas une radio bretonne, je vais l'avouer, je vais vous faire un aveu, on le fait pas, hein, sauf le jour de l'inspection. On pratique l'immersion au maximum en école maternelle, évidemment. Et on continuera à le faire, je suppose, jusqu'à ce qu'on se fasse trop taper sur les doigts. Voilà. Parce qu'il faut récupérer le déficit de langue bretonne dans la société par l'école pour qu'ensuite on puisse donner de nouveau le plaisir à l'enfant d'aller dans la société chercher les lieux où il va pouvoir le pratiquer. C'est-à-dire, on a une grosse production en audiovisuel aujourd'hui de livres, etc. en langue bretonne. Mais comme ça n'est pas souvent ou que c'est très rarement la langue de la famille aujourd'hui, il faut pouvoir, sauf chez les grands-parents éventuellement, il faut pouvoir justement compenser un peu, quoi. Voilà. La troisième filière, c'est l'école catholique, qui pratique aussi un peu d'enseignement bilingue, surtout dans le Morbihan, un petit peu par chez nous, mais surtout dans le Morbihan, dans le très catholique Morbihan.
Et alors, il y a une question qui se pose, tous ces nouveaux arrivants, tous ces gens qui viennent s'installer en Bretagne, ils ont envie que leur enfant apprenne le breton ?
Alors curieusement, oui. En fait, je retire le curieusement. On a justement, on a deux types de populations aujourd'hui qui arrivent en Bretagne. C'est-à-dire, il y a ceux qui, comme je vous disais, ne sont là qu'un mois dans l'année. Ceux-là, quelque part, la Bretagne aurait plus besoin de forces vives que de ces gens-là, même si évidemment, je répète, on ne crache pas sur la manne touristique. On a aussi des gens aujourd'hui, et ça, quand je dis aujourd'hui, c'est le vrai aujourd'hui, c'est-à-dire depuis un an, à peu près, qui ont très mal vécu le confinement, qui ont les moyens de travailler en télétravail, qui commencent à acheter des maisons par chez nous, et qui décident, eux, de vivre et travailler au pays aussi. Ils sont les bienvenus, et ils sont d'autant plus les bienvenus que très souvent, ils s'intéressent à ce qui se passe ici, mais d'emblée, peut-être parce qu'ils ont aussi... il y a peut-être un degré socioculturel un petit peu plus élevé, parce qu'il y a aussi l'aspect financier, il faut reconnaître qu'ils ont aussi cette possibilité de venir habiter là, d'acheter des maisons que nous, on n'a pas les moyens de s'acheter quand on est jeune. Donc, et ces gens-là s'intéressent à l'école bilingue, et puis ils inscrivent leurs enfants à l'école bilingue. On voit ça en ce moment-là, il y a un phénomène là d'inscription de gens qui sont pas du tout bretons, qui n'avaient pas d'attache, qui n'avaient même pas l'intention peut-être il y a 5 ans d'habiter en Bretagne, mais qui sont venus y habiter pour des raisons climatiques et tout ce qu'on voudra, de bonnes raisons sans doute, et qui décident de s'intéresser à la langue et à la culture et d'inscrire leurs enfants en classe bilingue. Alors, Dødmador, je leur dis qu'ils sont les bienvenus, bien sûr.
Même Bengud, même Bretagne, on continue en musique, toujours avec Fanch dans la Dichatz.
Under Zunel, Kåle de Ganti, Hillaga de Giffen, Hillaga de Giffen. Under Zunel, Kåle de Ganti, Hillaga de Giffen, Hillaga de Giffen, da vir vi ken. Aga de Swan, Kåle de Ganti, Karunna Gistinen, Karunna Gistinen. Agazespoat, kol de ganti, karon agistinen, karon agistinen, da vir vi ken. Agradenik, kol de ganti, blenjen aluzawen, blenjen aluzawen. Agradenik, kol de ganti, blenjen aluzawen, da vir vi ken. Agerialen, kole de ganti, isut agi mamen, isut agi mamen. Agerialen, kole de ganti, isut agi mamen, isut agi mamen, da vir vi ken. Yeah.
on a compris que l'enseignement était actuellement en voie d'évolution positive, et c'est tant mieux. Et par rapport à ça, comment on arrive à faire l'harmonie entre cet apprentissage d'une langue, le breton, et de retrouver la culture bretonne dans tous les domaines de la vie?
Alors, à l'école, déjà, on a ce qu'on appelle langue et culture régionale. C'est-à-dire que même dans les classes qui ne sont pas bilingues, on a en Bretagne, d'ailleurs, la nécessité, l'obligation aujourd'hui d'inscrire dans les nouveaux projets d'école un volet langue et culture régionale. Ce qui veut dire que l'ensemble des petits bretons en Bretagne, à condition que leurs maîtres et maîtresses soient volontaires, tout de même, et donc fassent l'effort de le faire, peuvent participer à des rencontres de danse bretonne, par exemple, donc les préparer à longueur d'année pour pouvoir ensuite se rencontrer un après-midi d'école. On appelle ça le FESD, c'est-à-dire la fête de jour, hein, parce que le fest-noz avec les enfants, on ne va pas le faire. Par contre, c'est mieux quand ils y retournent après avec leurs parents, évidemment. Fest-noz, c'est multigénérationnel, hein. On peut tous s'y retrouver dans la danse, et c'est ouvert à tous. Il y a ça, il y a la musique, bien sûr, on peut pratiquer la musique bretonne, faire de l'écoute de musique bretonne. Il y a énormément, en Bretagne aujourd'hui, de cercles celtiques associatifs qui accueillent les enfants pour la danse, puis des adultes ensuite. L'équivalent pour la musique, c'est ce qu'on appelle le bagad. On apprend donc la flûte irlandaise d'abord pour s'initier à la bombarde, qui est un instrument assez difficile, et ensuite on fait la cornemuse. Il y a évidemment des associations aussi, on peut faire le biniou, et puis les autres instruments bretons intégrés plus récemment, mais qui sont aujourd'hui partie prenante totalement de la musique bretonne, c'est-à-dire la guitare celtique, l'accordéon diatonique, qu'on appelle le Weston Diol en breton, la boîte du diable, parce qu'il était interdit par les prêtres, et puis la clarinette, le saxophone, tous ces instruments-là, qui sont, j'en oublie sans doute, mais bon. Donc là, il y a des cours de musique bretonne, il y en a un peu partout aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que si l'ensemble des gens qui étaient intéressés par la danse bretonne, par la musique bretonne, par la littérature bretonne, se décidaient d'apprendre la langue bretonne et se mettaient à inscrire leurs enfants en langue bretonne, on sauverait probablement la langue bretonne. Et puis si les politiques qui faisaient aussi beaucoup de grands discours en langue française sur la langue bretonne s'y mettaient aussi à l'apprendre, ça, vous voyez, je pense qu'on sauverait la langue. Je pense que c'est peut-être un peu pareil par chez vous.
Et alors, au point de vue médias, journaux, audiovisuels, films, ça avance aussi?
Ça avance aussi, et j'ai oublié le théâtre, une chose très très importante, parce que ce sont des choses que je fais beaucoup dans ma classe, moi, les sketchs. Et j'en profite pour dire que j'ai une chaîne YouTube sur Internet sur laquelle je présente des petits sketchs pour les petits-enfants de maternelle. En fait, là, j'ai une trentaine de sketchs qui sont en ligne actuellement avec une sorte de mode d'emploi pour les parents, pour comment leur faire répéter avec des marionnettes, des doudous, des choses comme ça. Donc, si les gens tapent Fanche-Rebours sur Internet, sur YouTube, ils trouveront ma chaîne en langue bretonne pour les enfants. Et donc le théâtre, c'est très important aussi, il y a beaucoup de troupes de théâtre aujourd'hui qui se créent en langue bretonne et qui mélangent aussi les générations, ça c'est très important. Et ensuite l'audiovisuel, c'est peut-être ce qui manque le plus. Alors ça progresse parce qu'il y a une volonté politique du Conseil régional de Bretagne aujourd'hui, il y a donc de l'argent qui est mis là-dedans, et parce que c'est ça, hein, le problème c'est de pouvoir embaucher des permanents qui soient eux formateurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sortent de D1 qui sont très très forts en breton, qui ont fait la fac de breton, qui font même des thèses aujourd'hui, des thèses de celtique, ils font l'anglais, ils font le breton ensemble, etc. Donc ceux-là on les embauche ensuite et puis dans les associations pour pouvoir donc promouvoir, ça peut être les médias en langue bretonne, donc ça peut être aussi les associations diverses dont j'ai parlé. Bon, je vais pas faire la liste des médias, mais il y a pas mal d'éditeurs en langue bretonne aujourd'hui qui se créent et qui existent depuis aussi de très longtemps. Certains associatifs, d'autres professionnels, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de gagner des sous avec la langue bretonne. C'est aussi comme ça, grâce à l'économie, qu'on fera avancer les choses. Ce qui manque, c'est la télévision publique, quoi. On a très très peu de bretons à la télévision publique, malheureusement. Et puis en fonction des présidents de chaînes qui passent et s'en vont et trépassent, j'allais dire, non peut-être pas, mais en fonction de la volonté politique des gens, on a plus ou moins de respect pour la langue, et donc plus ou moins d'horaire finalement sur la semaine. Il y a plutôt sur le web aujourd'hui, on trouve une chaîne de télé qui s'appelle Brezo Web, par exemple, qui émet 24h/24 en langue bretonne, ça c'est intéressant. On a des organismes de doublage de films aussi en langue bretonne. On a aussi maintenant des organismes de création en langue bretonne, de séries et de films. Et puis il y a toute cette profusion d'intermittents du spectacle qui créent du théâtre, des contes, des chansons bien sûr. On a beaucoup de chanteurs et de chanteuses en langue bretonne aujourd'hui, de tout genre. Des gens comme Briec Guerveno qui font du hard rock en langue bretonne, comme Nolan Corbel qui fait de la pop musique en langue bretonne. Enfin, j'en cite quelques-uns et peut-être que c'est eux qu'on écoutera dans l'émission. Voilà.
Et alors, au point de vue publication, est-ce que vous avez des revues qui sont en breton, qui sont bilingues.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire de la revue en langue bretonne pure aussi, pas forcément bilingue. Alors, c'est vrai qu'il y a des revues bilingues, notamment il y a le magazine Vraiment, qui est publié par Skolan Emza à Rennes, qui a créé il n'y a pas très longtemps un magazine qui s'appelle. Alors, comment ça s'appelle? Le dièse, j'oublie toujours. Des deux slash avec le hashtag. Le hashtag. Ça s'appelle hashtag Brezhoneuk. Alors, cette revue-là, hashtag Brezhoneuk, elle est justement dédiée plutôt aux bretonnants en apprentissage. Plutôt adulte d'ailleurs, et elle est constituée d'articles en fait qui sont totalement traduits. C'est-à-dire que c'est intéressant, j'ai été interviewé justement pour parler de mes précédents livres, mes 3 ou 4 précédents livres là, en langue bretonne. Donc j'ai répondu à l'interview en langue bretonne, et ensuite le journaliste m'a traduit en français, et il a donc publié l'article de cette façon-là. Et ensuite il envoie. Alors j'ai recorrigé un petit peu en français certaines choses, mais c'était assez amusant. Donc cette pratique-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui il faut essayer de faire en sorte que la langue bretonne conserve sa vitalité en étant pratiqué. Et donc le mieux quand on est deux bretonnants à se croiser, même si on a envie ensuite que ce soit aussi des gens un peu qui pratiquent un peu moins la langue qui puissent quand même y accéder, le mieux c'est de se parler en breton d'abord, quoi, c'est ça. Donc il y a ce magazine là, il y a des radios en langue bretonne, il y a RKB, Radio Kreisbreiz, il y a un ensemble de radios bretonnes de pays aujourd'hui qui se sont associés, et on a donc des journalistes qui viennent interviewer les gens dans différents pays, et ensuite c'est diffusé sur l'ensemble de la Bretagne. Donc il y a toute une série à la fois de dynamiques associatives et quelques dynamiques publiques qui s'ajoutent à ces dynamiques associatives qui sont insuffisantes à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'entre nous, mais qui sont quand même là, qu'on mérite d'exister aussi et qu'il faut chercher à développer parce que la volonté est là. Il faut un peu le nerf de la guerre pour continuer à développer.
Et bien on continue la musique, nous, pour développer ce breton, justement.
Thank you.
Alors, Fanch, on continue à parler. Maintenant, on va s'adresser plus particulièrement à l'écrivain. Donc, il y a longtemps que vous écrivez. Qu'est-ce que vous écrivez? Écrivez-vous en français, en breton?
Ah bon, j'écris depuis toujours, hein, comme à peu près l'ensemble des gens qui sont passés à l'école. Simplement, écrire pour être édité, ça m'est venu il n'y a pas très longtemps, en fait. Hein. Je suis surtout lecteur, en fait. Voilà, ma plus grande passion, je crois que ça reste quand même la lecture. Je sonne beaucoup moins, je fais beaucoup moins de musique. Hein. J'ai joué en bagade, j'ai joué dans un groupe de fest-noz, un quartet, avec donc un camarade à la bombarde, un autre au bignou-cause, moi à la cornemuse et un camarade saxophoniste. Donc on animait des fest-noz et on était d'ailleurs présents à peu près à mi-temps dans des fest-noz et dans les manifestations politiques. Parce que ce qui comptait à l'époque pour moi, c'était surtout la politique en fait. Et donc la musique servait à ça aussi, l'apprentissage de la langue également. Donc ma première pratique scripturale, c'est de la pratique de textes politiques. Voilà. À la fois pour les fois où je me suis présenté aux élections cantonales, donc les fameuses professions de foi, tribunes libres dans les journaux, site internet de campagne, des articles dans Le Peuple Breton, le mensuel de notre parti UDB, etc., etc. Je suis aussi un grand romantique et j'ai écrit énormément de lettres d'amour. Voilà, donc c'est ce que je faisais moi quand j'avais 20 ans, j'écrivais des textes politiques et des lettres d'amour. La littérature de fiction, la littérature narrative, mais venue plus tard pour ce qui est de l'écriture, mais elle est là depuis toujours évidemment pour ce qui est de la lecture. Voilà, donc j'ai été à une époque grand lecteur de polars, de romans noirs plutôt que de polars d'ailleurs, c'est-à-dire le roman noir au sens roman social, et roman de critique sociale. Toujours pareil, pour pouvoir faire un peu de la politique à travers de la fiction, de recherche, d'enquête, etc. Et j'ai décidé de proposer mon premier livre à un éditeur, on était seulement en 2015, vous voyez. Parce que j'avais une histoire familiale à écrire, une histoire maritime, l'histoire de mon arrière-grand-père, une histoire que j'ai écrite sous la forme d'une enquête policière. Ça s'appelle « Les suppliciés du Goëlo », donc c'est un livre en langue française. Et ça racontait l'histoire d'un naufrage à Islande, d'une goélette sur laquelle était mon arrière-grand-père. Donc il est décédé, l'équipage est mort, le bateau a coulé corps et biens. Ils ont été percutés par un chalutier à vapeur allemand qui s'appelait le Comet. On est en 1911, en mars 1911. Il y a eu 4 naufragés, et dont tous les autres sont morts. Les 4 naufragés ont été récupérés par le bateau, et quand ils ont menacé de porter plainte parce que le bateau allemand était en tort, le capitaine du bateau leur a fait couper les bras et les mains et les jambes et les a rejetés à l'eau pour qu'ils se noient, pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Et c'est le mousse allemand qui a témoigné à un pasteur anglican en arrivant en Écosse, en fait, de ce qui s'était passé, parce qu'il y a eu une sorte de contrat moral entre les membres de l'équipage. Donc une histoire très cruelle, très dure, qui n'était pas unique. Hein. Il est arrivé plein de choses comme ça à l'époque, on est en 1911. Et j'ai voulu en faire un polar, en fait. Pour moi, c'était un one-shot, c'était mon seul... Untold en breton, c'était mon seul livre, quoi. Le livre qu'on écrit dans une vie, hein. Je crois que dans une vie il faut planter un arbre, écrire un livre, etc., etc., je sais plus la citation, et voilà, j'ai trouvé un éditeur en Bretagne, pas très loin de chez moi, 1 heure d'ici, et puis le livre a très bien marché, l'éditeur m'en a demandé un deuxième, et comme j'avais une héroïne qui menait l'enquête, qui était institutrice bilingue comme par hasard, avec son amant gendarme, elle menait une enquête, et donc je me suis dit je vais inventer une deuxième histoire, et j'ai écrit du coup une trilogie de romans noirs qui se passent sur Paimpol. Le deuxième s'appelle Festival du Méchant Marin. Il se passe pendant le Festival du Chant de Marin de Paimpol, qui est un grand festival paimpolais tous les 2 ans. Et le troisième, Le Bahut du Maure, se passe entre la Corse et Paimpol également. C'est une histoire de marine marchande. Alors la plupart de mes livres sont des romans maritimes. Hein, j'écris des choses maritimes parce que je viens d'une famille maritime, en fait. Voilà. Ensuite, j'écris assez régulièrement chez le même éditeur des nouvelles que je publie sous la forme de recueil de 13 nouvelles. 13 parce que c'est pas mal le nombre 13. Ce qui s'appelle 13 nouvelles cruelles de Bretagne. On a déjà fait 2 volumes. Et il y aura un troisième à venir, je pense, d'ici 2 ans. Parce que plusieurs nouvelles sont déjà écrites. Qui racontent des faits divers que je retraite à la sauce encore plus noire, on va dire.
Tout en français.
Alors tout ça est en français. Et ensuite j'ai écrit aussi j'ai écrit 10 livres pour l'instant, enfin j'ai édité 10 livres pour l'instant chez des éditeurs bretons à chaque fois, donc j'ai eu aussi deux livres édité chez un éditeur qui s'appelait La Gidouille. Mais là, ils ont pris leur retraite et la boîte n'a pas été reprise. L'un qui s'appelait Transport, qui était encore une histoire maritime, qui se passe sur un ferry pendant 14 heures de traversée entre Roscoff et Cork, en Irlande. Donc, on a trois femmes. C'est un roman assez féministe, en fait. Trois femmes qui se rencontrent, qui ont des vies totalement différentes. Et j'aime bien faire voyager les gens. C'est-à-dire, l'une de mes trois héroïnes est kurde syrienne. Elle est née au Kurdistan syrien. Et donc, ça me permet d'aborder la thématique du Kurdistan et de la manière dont il a été abandonné par les Européens et dont les... ça s'appelle le Rojava chez eux, hein, leur pays idéal, un peu.
Et tous ces livres, on peut les trouver sur Internet, si on est intéressé. Tous ces livres...
Oui, bien sûr.
Donc, c'est
L'idéal, c'est de les acheter en librairie, hein, des commandes en librairie, si on peut. Et puis sinon, bien sûr, on les trouve sur Internet. Ouais.
Fanch Rebourg, il suffit de taper Fanch Rebourg. Fanch, F-A-N, tilde, C-H, Rebourg, R-E-B-O-U-R-S. Et le dernier roman que vous avez publié, c'est Krumman. Alors, donnez-nous envie de le lire. Qu'est-ce que c'est, ce roman Krumman?
Alors, donc, une petite aparté quand même sur le... Une aparté?
Oui.
Sur la littérature en langue bretonne, j'écris aussi à des collectifs, dans des collectifs en langue bretonne, de nouvelles, notamment un recueil qui s'appelait En héros en rue, qui veut dire Le Dragon Rouge, qui est sorti aux éditions Guater il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et là, on a un recueil en langue française, un recueil en langue bretonne, qui rassemble tous les écrivains du Trégor Gouelot, en fait, des plus célèbres aux moins connus. Voilà, en langue bretonne. J'écris aussi la littérature jeunesse en langue bretonne, aux éditions Tess. J'ai écrit une série de petits romans pour adolescents sur la pêche à Islande, sur les caporniers, avec des documents pédagogiques. Donc ça s'est publié sous la forme d'un recueil de petites novellas. Et littérature jeunesse autrement pour les petits, alors des albums jeunesse avec une petite dessinatrice occitane d'ailleurs, de Montpellier, qui s'appelle Lucie Francisque Loupiotte, c'est son nom de dessinatrice. Voilà, on est en train de travailler sur un deuxième volume là, sur les paysans bretons. Le premier, c'était sur les pompiers, une histoire de pompiers. Et mon dernier, Krumman, donc c'est un livre de littérature maritime qui est sorti cette année, en 2021.
Qu'on conseille. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ne nous dites pas tout, juste le début.
En quelques mots, donc, c'est la rencontre à bord d'un navire grumier en 1951 entre un Bosco breton qui était mon grand-père, qui s'avère être mon grand-père. Je raconte l'intégralité de la carrière de mon grand-père, qui a vécu une vie complètement dingue, une vie d'aventure, vraiment, tout en faisant simplement son métier. Et il rencontre un jeune crew, un jeune docker ivoirien du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc on appelait les crewmen, c'était les navigateurs de l'ethnie crew. Et ce jeune crew a 17 ans, il y a une relation de fraternité qui s'installe à bord de ce bateau, alors que deux communautés embarquées, en fait, les crewmen, ils sont 70 à bord, et les marins européens sont 40. En général, ne se fréquentent pas du tout pendant ce mois et demi ou ces 2 mois d'embarquement où ils travaillent ensemble pour rapatrier en fait les gros troncs d'arbres des rades du Congo vers l'Europe. Et donc ces crewmen, on est à la pleine époque de la colonisation et de la fin de la colonisation en Côte d'Ivoire. Et mon grand-père était communiste, syndiqué à la CGTU. Et donc il y avait cette notion de fraternité importante. Et donc on voit dans ce livre à la fois toute la carrière du marin breton, né en Bretagne, le même dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été interdit de parler la langue bretonne, et cette rencontre avec ce jeune crewman qui lui est aussi cultivé parce qu'il a été à la mission apprendre la langue française. Et donc il y a la relation aussi à la langue, à l'interdiction et aux pratiques spirituelles, de superstition, des choses comme ça. Donc on visite le village en fait de ce jeune crew depuis sa naissance jusqu'à son embarquement et plus tard jusqu'à leur énième rencontre, mais je vais pas tout dire. Donc c'est à la fois de l'ethnographie maritime, l'ethnographie aussi sur l'Afrique. J'ai lu pas mal de thèses en fait d'ethnographie pour installer ce personnage qui lui est totalement inventé, qui n'est pas un personnage réel.
Personnage de roman s'appelle Krumman, c'est par Fanch Rebourg et c'est aux éditions Skolvreis.
Paul
Vreiz. Voilà, mais écoutez, on est ravis de vous avoir rencontré, Fanch, et puis continuez d'écrire, hein, on se fera toujours un plaisir de vous lire. Et alors, vous êtes optimiste, vous, par rapport à la langue bretonne, après tout ce que vous avez dit, aujourd'hui, il y a une pulsion nouvelle, on sent le cœur battre de cette langue, de nouveau chez les jeunes.
Être optimiste, ça serait être naïf, je crois. Par contre, sur le cœur qui bat, il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus de cœurs qui battent pour la langue bretonne. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de sauver les meubles, en tout cas, au maximum. Et on s'y attelle au quotidien.
E bien, Trugarez, Fanch, grand merci per vostro testimoniage sur vostro bide, sur vostro approccio de la, del ressentit per rapport à la langue et la culture bretonne. Et puis, on va dire, vivo les langues de France, que toutes les langues puissent exister pour le bonheur de chacun.
Trugarez vraz, à Kenor Vichal, Babreis.
Allez, chats, et à la semaine que ben. Merci.
Bye.